rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue, Thibaud Dautuy, le micro de Radio Présence, pour notre émission de rencontre avec l'un des évêques de notre région. Et pendant ce mois de juin, nous sommes avec Mgr Le Gall. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Thibaud.
Vous êtes donc archevêque de Toulouse. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble du dialogue interreligieux, mais peut-être pas comme d'habitude. Effectivement, on a eu à plusieurs reprises déjà l'occasion de parler à cette antenne du dialogue interreligieux, en particulier en mars dernier, dans le cadre de cette émission, où j'ai échangé avec Mgr Gardès, qui a eu de très belles paroles pour encourager ces dialogues interreligieux en France. Mais vous, Mgr Le Gall, on va prendre le sujet, je vais dire, de l'autre côté de la lorgnette. Quelle perception de ce dialogue interreligieux quand on est dans un pays musulman? Parce qu'en effet, vous avez eu l'occasion, en janvier dernier, de participer à un voyage en Iran, aux côtés notamment de Mgr Aveline, à la rencontre de la communauté chiite de ce pays. Alors, dans quel cadre est-ce que ce voyage s'est fait?
C'est une invitation que la Conférence épiscopale de France a reçue du gouvernement même de l'État de l'Iran, et par le biais d'un ministère qui s'occupe des relations internationales et qui a une subdivision pour les questions des religions en particulier. Donc c'est quelque chose de très officiel, et dans le cadre aussi de la volonté du gouvernement de se montrer ouvert dans un contexte politique un peu difficile pour ce pays, comme nous savons, de se montrer ouvert à différentes autres religions. Et c'est vrai que par rapport aux sunnites, dont nous avons davantage l'habitude ici dans nos pays d'Europe de l'Ouest, en particulier les sunnites, que nous savons apprécier aussi, mais les chiites ont une manière de vivre leur foi musulmane assez différente et, à mon sens, un peu plus ouverte, m'a-t-il semblé, que beaucoup de nos amis musulmans avec qui nous conversons ici à Toulouse sont aussi ouverts. Mais ça m'a frappé. On est proche ici, plus particulièrement spirituellement, des soufis. Mmh. Et des soufis et les chiites sont, nous a-t-il semblé, lors de nos rencontres là-bas, donc assez voisins d'une espèce de soif spirituelle, d'un intérêt pour la spiritualité que les soufis.
D'accord. Alors, pour ceux qui voudraient en savoir plus, hein, pour creuser un petit peu cette question, on peut citer un document qui a été émis par la Conférence des évêques de France, qui s'appelle En dialogue, et qui raconte avec beaucoup de détails ce voyage et d'autres sujets. Donc c'est un dossier chiisme. Et donc, dans l'article qui raconte un petit peu votre voyage et ses rencontres, il est cité des bénéfices issus de cette rencontre. Alors je vais en citer deux. D'abord, effectivement, pour les catholiques, de bien repérer la diversité de la pensée dans le chiisme, qui n'est pas du tout un bloc monolithique. Mais il y a des universités, il y a des penseurs, il y a des oulémas qui ont une diversité de pensées.
Il y a donc déjà, nous le citions au début de notre entretien, une diversité dans l'islam, entre le chiisme et le sunnisme. Si on peut dire, les plus nombreux étant les sunnites, dont nous avons l'habitude, je le redis. Mais à l'intérieur même du chiisme aussi, il y a différentes sensibilités. Comment s'en étonner, nous qui sommes à cette antenne, qui sont une radioprésence catholique et ouverte à d'autres formes de religion, dans cette antenne, vous avez reçu des musulmans, des frères chrétiens qui ne sont pas de la pleine communion de l'Église catholique, etc. Donc, et même à l'intérieur de l'Église catholique, il y a des sensibilités fort différentes. Notre antenne en témoigne régulièrement.
Oui, tout à fait.
C'était intéressant de voir que c'est un peu la même chose en ce qui concerne le chiisme, mais d'autant plus que nous étions invités par le gouvernement, mais nos interlocuteurs et ceux qui nous invitaient dans différents endroits de Téhéran et du centre de pèlerinage de Machad étaient des universitaires. On a pratiquement toujours été dans le milieu universitaire, à des niveaux différents parfois, mais on est toujours resté à ce niveau-là, ce qui nous faisait entendre nos interlocuteurs et aussi donner l'occasion de présenter un peu notre foi et dire quelquefois nos réactions ou nos questionnements par rapport à l'islam d'aujourd'hui.
Et vous avez, comment est-ce que vous avez perçu cette variété, justement, à l'intérieur de cette religion chiite? Comment est-ce que vous avez pu percevoir cette différence entre les sensibilités de manière un peu concrète, palpable?
Nous avons eu un repas chez un ami d'un des deux prêtres particulièrement qui nous accompagnait, parce que cette délégation, nous étions quatre,
Oui.
deux évêques,
Deux prêtres.
Monseigneur Jean-Marc Aveline, qui est l'évêque auxiliaire de Marseille, mais qui avait organisé ce voyage et qui le patronnait, si j'ose dire, en tant que président du Conseil pour les relations interreligieuses, dont je suis maintenant membre. C'est pour ça que nous étions ensemble. Et on était moi-même, voilà, les deux évêques que nous étions. Et ensuite, il y avait deux prêtres, dont un sulpicien qui est très, très connu, qui connaît bien, qui avait un ami, et qui habite Paris la moitié du temps, et Téhéran le reste du temps. Donc on avait des interlocuteurs assez remarquables. Et cet ami, dans sa maison, dans son appartement de Téhéran, avait organisé un dîner un soir avec des oulémas ou des ayatollahs. Des ayatollahs, c'est-à-dire c'est pas exceptionnel d'avoir des ayatollahs, c'est pas seulement ceux qui sont en tête du pays, et c'est des gens lettrés, etc., enseignants, etc. Et il y avait au moins de 7 ou 8 universités différentes, et donc avec des sensibilités qui n'étaient pas forcément toujours les mêmes, avec une ouverture plus ou moins grande et des questionnements assez différents. Et de tous, nous avons à peu près un apéritif assez long avec des boissons du lieu. Et c'est pas toujours alcoolisé, vous savez, dans un pays. Et rarement. Et puis ensuite, nous sommes passés à table. C'est-à-dire passer à table, ça veut dire passer au sol. En fait, le repas était sur nos talons, assis sur nos talons, et avec une nappe posée sur la moquette, et puis des aliments de grande qualité préparés depuis un jour ou deux par plusieurs dames qui avaient un lieu spécifique où personne n'entrait. Donc c'était assez étonnant pour nous, et folklorique, si on oserait dire ce terme-là, mais c'était très touchant et c'était savoureux. De toute manière, mais en même temps que nous piquerions dans les plats qui étaient à notre portée et qui circulaient, et nous devisions un petit peu de choses et d'autres, après avoir passé plus de temps à l'apéritif, à entendre des questions ou à nous-mêmes entendre des questions qui nous étaient posées, et nous-mêmes en posant de notre côté.
Il est dit effectivement que, donc, pour nous, les catholiques, il y avait l'occasion de repérer cette diversité de la pensée dans le chiisme. Et pour les ulémas chiites, le bénéfice qui est cité, ils expliquent que le rationalisme autorise l'évolution de la jurisprudence islamique et que ce genre d'échange favorise le développement d'idées nouvelles. Donc le fait que de venir, comme catholique, discuter avec ces ulémas ou ces ayatollahs, c'est une manière pour eux aussi de comprendre à quel point notre religion est ouverte et s'autorise, développant de nouvelles idées, effectivement, c'est ce qui est expliqué dans le
projet. Cette ouverture nous a vraiment frappé, je crois. Et certes, le milieu universitaire le permet aussi, mais en même temps, les universitaires sont parfois très cloisonnés dans leur domaine, comme nous savons. Mais là, vraiment, c'était intéressant, respectueux. Et il est vrai aussi qu'on nous a dit, le représentant du gouvernement qui nous a reçus le premier jour, dans le cours du premier jour, qu'il recevait aussi d'autres délégations d'autres religions, et des bouddhistes par exemple. Ils avaient reçu des représentants de la conférence épiscopale d'Autriche, et il y a pas très longtemps. Donc ils ont vraiment une volonté d'ouverture dans le contexte politique que je évoquais tout à l'heure aussi, ce qui est important pour eux. Mais il y a, à mon avis, c'est pas uniquement un calcul. C'est pas uniquement, même si c'est au moins pour les éléments du gouvernement, mais les religieux, les personnes religieuses que nous avons rencontrées et qui sont vraiment religieux. Ils sont les enturbanés.
Oui.
Les enturbanés, c'est vraiment des personnes religieuses et pour qui la religion n'est pas une politique.
Mais vous n'aviez pas de turban, mais vous aviez quand même une croix pectorale visible. Quand vous déambuliez dans la rue ou dans les marchés, comment est-ce que vous étiez accueillis?
Alors, on n'a pas eu de soucis de ce côté-là.
Ouais.
Et évidemment, comme on fait même ici en France, ma croix pectorale qui est un peu voyante,
oui,
et
oui.
qu'on l'aperçoit tout de même, je ne la mettrai pas dans la poche ou à côté de manière à ne pas imposer, juste de cela. Dans les milieux publics.
Mmh.
Alors de même, là-bas aussi, je ne disais pas de manière ostentatoire.
D'accord.
Mais j'avais le clergyman de tout le temps.
Oui.
Et donc c'était... Les gens nous repéraient vite comme des catholiques, je suppose.
Et alors le récit révèle une petite anecdote que j'ai trouvée particulièrement savoureuse. À côté de la récitation traditionnelle du Coran, vous avez, semble-t-il, entonné quelques versets du livre de la Sazèche, chantés, j'imagine, peut-être en grégorien. Quel était le contexte?
Pas tout en grégorien. J'ai chanté en grégorien. Alors c'est curieux parce que ça s'est passé comme ça. Dès la première rencontre qu'on a eue dans une école qui était liée à diriger l'épouse de notre autre de privilégié, elle est là-bas, qui habite 6 mois à Paris sur 12. Et donc, ça a commencé. Ah oui, il y avait déjà de nombreuses personnes universitaires. Ça a commencé par le chant d'une sourate de Coran. Chanter, mm-hmm. vous savez, mm-hmm. les muezzines qu'on entend dans les petites tours des mosquées, et qui, le plus tard du temps, malheureusement, ce sont des haut-parleurs maintenant, mais dans des occasions importantes, c'est une personne en chair et en os qui venait chanter, et quelqu'un de très capable. Alors, ça, c'est intéressant. Et après cette première occasion, par ce moment, j'ai dit, pourquoi ne pourrions-nous pas donner écho nous-mêmes à ce chant par une cantillation dont nous avons quelquefois l'habitude. Et alors j'y suis allé d'un moment ou l'autre au temps grégorien, mais le plus souvent, d'après le contexte de la rencontre universitaire que nous avions avec un thème de donné, je choisissais un texte, le plus souvent c'était l'Ancien Testament, c'était les Proverbes par exemple, ou le Cantique des Cantiques. On parlait de la poésie, on a parlé de la poésie à Machad, où nous étions dans le grand pèlerinage, et ils ont été, je veux dire que les gens étaient touchés, parce que je citais des textes en les cantillant, c'est-à-dire sur un ton psalmique ou autre, et ça a été un peu une première pour eux, mais ils ont été touchés aussi.
Ainsi de
ça a donné un ton, vous voyez, spirituel, religieux et un peu liturgique à notre rencontre.
Et ainsi de ce voyage, vous deviez ramener en un mot, parce que c'est déjà la fin de cette émission, si en un mot vous deviez ramener quelque chose à Toulouse, qu'est-ce que ce serait ?
On est revenu très positivement impressionné et par la délicatesse, la gentillesse des personnes, et je le redis, leur intérêt pour la spiritualité.
Bien, merci beaucoup Monseigneur. On se retrouve la semaine prochaine et nous allons parler ensemble du chemin néo-catéchuménal.
Rencontre avec nos évêques.